Phil BM Paranormal.
The flying disc has been found.
El mítico Chupacabras.
Les enquêtes de Christian Page.
C'est toujours le fun de finir notre semaine avec Christian Page. Bonjour.
Salut Bernard.
Alors aujourd'hui, le mystère du lac aux squelettes.
Oui.
Je vais te dire, ça part fort, là, le lac aux squelettes, là.
C'est presque un film, hein? Écoute, on a parlé plus tôt cette semaine de cette histoire de nécropole qui avait été découverte où on avait sacrifié des enfants au Pérou.
Oui.
Et tu vas voir que la nouvelle d'aujourd'hui est un peu dans le même sens, hein? Bon, je t'amène cette fois dans l'Himalaya. Bon, évidemment, quand on parle l'Himalaya à cette chronique, on s'attend à parler du Yéti, mais là, c'est pas de ça qu'il sera question.
C'est pas le squelette du Yéti, là, dont il
s'agit.
Non,
je t'amène, en fait, au lac Ronkond, hein. Il se trouve dans la partie indienne, là, dans les contreforts de l'Himalaya. Il se trouve dans un parc national, le parc Nanda Devi, qui est la déesse de la joie dans l'hindouisme. Et, c'est un petit lac, hein. Il fait à peu près 2 mètres de profondeur, donc c'est un lac qui se trouve au milieu d'un glacier. Il fait 2 mètres de profondeur et quelques dizaines de mètres au maximum en termes de diamètre. Et puis, en 1942, l'un des gardiens du parc, alors que le lac était dégelé, alors qu'il s'approche près du lac, il constate dans les eaux, très bien visibles depuis la berge, il voit des centaines de squelettes.
Oh! Hey, sais-tu à quoi ça me fait penser?
Vas-y.
Tu sais, la scène dans Le Seigneur des Anneaux.
Oui,
quand
oui.
Tu traverses des espèces de plaines marécageuses, là, puis ils marchent sur des squelettes, justement.
Sur des squelettes.
Mais dans les faits, c'est des squelettes vivants, là, on s'en rend compte. Mais les premières images, tu te rappelles?
Oui, absolument. Et en 1942, donc quand on découvre ça, ces squelettes, on est un peu dans un contexte de Deuxième Guerre mondiale. Et là, lorsque les Britanniques sont informés de la découverte de nombreux squelettes dans un lac, on se dit, est-ce que ce serait une activité des Japonais, une exaction qu'ils auraient fait avec des prisonniers de guerre? Donc, il y a toutes sortes de rumeurs autour de ça. Mais les premiers explorateurs qui vont sur place constatent assez rapidement que même si dans certains cas, des squelettes ont encore des parties de vêtements sur eux, certains crânes ou des corps ont encore des cheveux ou de la peau, il est clair que ce sont de très anciens squelettes et que ce sont les conditions climatiques qui ont conservé les corps de cette manière. Rappelle-toi, hein, ce corps qui avait été retrouvé dans le Tyrol il y a une vingtaine d'années, qui était excessivement bien conservé.
Bien préservé, oui.
Et qui était je crois que c'était Onzi qu'on l'avait baptisé, et qui était un chasseur qui datait de l'époque du néolithique, là. Donc, les conditions avaient permis de conserver très, très bien ces corps. En fait, ces squelettes qu'on estime à peu près à 500 le nombre.
Wow.
Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas eu vraiment d'études qui avaient été faites autour de ça. Il faut savoir que le parc en question est un lieu sacré. Il mène à un temple hindou. Et on avait toutes sortes de rumeurs ou de légendes. L'une d'entre elles voulait qu'un ancien roi soit allé là avec sa reine. La reine aurait accouché, elle était à ce moment-là enceinte de 8 ou 9 mois, et elle aurait accouché durant le séjour tout près de ce lac. Et là, ça aurait soulevé la colère des dieux et les gens auraient été tués par une chute de grêle. C'est vrai qu'il y a, dans la région, il y a souvent des chutes de grêle, et les grêlons ont la taille de balles de baseball. Or, tu comprends qu'au milieu d'un glacier, t'as pas beaucoup de place pour te réfugier. Alors, on s'est demandé à un moment donné, est-ce que cette légende-là n'était pas inspirée d'un fait réel? Donc, des pèlerins auraient été tués lors d'une tempête, à tout le moins un cataclysme naturel, ou peut-être même on a pensé à une épidémie, une espèce de mouroir où des gens seraient décédés lors d'une grande période d'épidémie. Tout ça pour te dire, Bernard, qu'il n'y avait jamais eu d'enquête qui avait été menée, ni sur le plan de l'ADN, ni sur le plan anthropologique.
Est-ce qu'ils sont toujours là, les squelettes?
Oui, les squelettes sont toujours là. Les autorités ont de la misère à contrôler ça parce que tu comprends qu'à cause du tourisme macabre, des gens vont là, regardent les squelettes. Certains, bon, il y a à peu près plus de crânes parce qu'au fil des ans, les gens ont volé des crânes, crânes pour les ramener chez eux. Donc, mais c'est strictement interdit. C'est interdit de toucher aux squelettes. C'est interdit de voler des os, bien sûr. Mais bon, il n'y a pas une vérification, il n'y a pas une surveillance qui est faite, malheureusement, 24 heures sur 24.
D'accord.
Là où j'amène à cette nouvelle, et tu vas voir que c'est quand même très étonnant, ce sont des scientifiques, et pas les moindres, certains de l'université Harvard et d'autres de l'Institut Max Planck en Allemagne, et ces gens-là ont prélevé à une trentaine de squelettes. En fait, c'est 37 squelettes. Ils ont prélevé ces 37 squelettes et ils ont procédé à des premières analyses ADN dans un premier temps pour déterminer quelles étaient les communautés qui vivaient là et bien sûr pour déterminer l'âge à travers des tests de datation carbone 14. Et à leur grand étonnement, ils ont découvert que ces squelettes appartenaient à plusieurs communautés très éloignées. En fait, parmi les squelettes retrouvés, sur ceux qu'on a récupérés pour l'analyse, et je te rappelle, il y avait à peu près 500 squelettes là dénombrés dans le lac à l'origine, sur les squelettes, sur la trentaine de squelettes qu'on a récupérés, il y en avait 23 qui étaient des squelettes originaires du sud asiatique, donc là où on se trouve, c'est-à-dire à la frontière, le Népal, l'Inde, etc., donc des populations locales. 14 squelettes étaient originaires de l'est de la Méditerranée, très associés par l'ADN à la région, par exemple, de la Crète aujourd'hui. Ça fait quand même un bout de chemin pour se rendre à ce lac-là. Et un squelette, lui, était du sud-est asiatique, donc beaucoup plus dans la région du Japon, par exemple. Alors, ce que les scientifiques, et là, les scientifiques sont tout à fait étonnés de ça, c'est un article qui est paru le 20 août dernier dans le Nature Communication, c'est une publication scientifique, et là, on révèle toutes les données par rapport à l'ADN, tout ça, qui montre bien qu'on est en présence de plusieurs communautés, et attache-toi bien, Bernard, ces communautés-là ne sont pas mortes au même moment.
C'est ce que j'allais te demander.
Et voilà, on a des squelettes, pour les plus anciens, on parle d'une période aux alentours de 1200 ans, donc après Jésus-Christ, donc aux alentours de 1200 ans, et là on parle principalement des populations dites de l'est de la Méditerranée, donc peut-être de l'île de Crète ou de la Grèce. Et pour les plus tardives, pour les plus jeunes, pardon, on parle de ceux qui viendraient par exemple du sud asiatique, là on parle de l'an à peu près 800. Alors là, les scientifiques en sont à se gratter la tête. Pourquoi se rendre à cet endroit? C'est comme si à cette époque, aux alentours de l'an 1000 à peu près, c'est comme si le lac avait une réputation particulière qui aurait, alimenté une espèce de pèlerinage.
J'allais dire un lieu de pèlerinage.
Mais on ignore le pourquoi. Pourquoi, à travers cette longue période de temps, ce 600-700 ans, pourquoi des communautés venues d'un peu partout à travers le monde, parce que on comprend les îles grecques, la Méditerranée, c'est quand même loin de l'Himalaya. Pourquoi ces communautés ont-elles fait ce déplacement pour se rendre dans cette région pour éventuellement y trouver la mort? C'est très mystérieux et si on croyait avec cette analyse qui comme je l'ai mentionné a été quand même menée par les chercheurs de l'Institut Max Planck et de l'Université Harvard, si on croyait trouver une solution par ces analyses, on ne fait que en fait épaissir l'énigme.
Quel est le mystère
du lac Rondcombe et pourquoi les gens se sont-ils rendus en masse pendant des siècles dans ce lieu devenu aujourd'hui presque mythique.
Très intéressant. Si jamais tu as du neuf là-dessus, moi, je serais très curieux, puis je ne dois pas être le seul, je serais très curieux de savoir quelles sont les hypothèses qui circulent. Il nous reste seulement 4 minutes. Passons du lac aux squelettes au lac Champlain.
Oui, parce que bon, c'est la période de l'été, il faut quand même prendre ça un petit peu léger. Et là, c'est un article qui est paru le 22 août dernier dans le Press Republican, qui est un quotidien de Plattsburgh. Et on nous apprend que le 5 août dernier, une résidente de Ferrisburg au Vermont, une certaine Cathy Elizabeth, une femme de 34 ans, qui est une véritable passionnée des histoires du monstre du lac Champlain, elle a même formé un petit groupe qui s'appelle le Champ Search Group, et elle occupe à peu près toutes ses belles journées de week-end à patrouiller sur le lac dans l'espoir d'y voir la créature. Et le 5 août dernier, alors qu'elle se trouvait là, près de Westport du côté New York du lac Champlain, elle a capté sur son sonar un écho. En fait, je dis un écho, mais c'est deux gros échos de deux formes animales qui semblaient nager sous la surface de l'eau à 45 ou 50 mètres sous la surface. On parle quand même d'une bonne profondeur, là. C'est grosso modo en pied, 160 pieds. Or, l'image sonore montre deux espèces de formes filiformes, donc très allongées, qui pourraient ressembler à de très longues anguilles et qui font 7 mètres de long. C'est 25 pieds de long.
Une grosse alors, anguille, cela.
C'est des grosses anguilles. Alors, évidemment, elle est très enthousiaste. Comme elle se passionne pour l'énigme du monstre du lac Champlain, elle se dit, est-ce que finalement j'ai capté un écho sonore de deux monstres du lac Champlain, alors que
ça faut pourrait quand pas même... être, ça pourrait pas être deux billots de bois, là, mettons, là.
Bernard,
vraiment, excuse-moi,
t'es un rabat-joie. Mais quoi qu'il en soit, évidemment, ça alimente beaucoup la conversation ces jours-ci autour du lac Champlain. Alors si, durant les prochaines journées, s'il fait encore beau, des beaux week-ends durant le mois d'août,
allez-y, tu donnes rendez-vous aux auditeurs.
Mais oui, bien sûr, pourquoi pas? Peut-être verra-t-on enfin une bonne photographie ou un bon film du monstre du lac Champlain. Parce que, faut l'avouer, Bernard, même ça fait plus de 300 ans qu'on collige des témoignages, il faut quand même admettre que jusqu'à maintenant, photographie et films n'ont pas été très convaincantes par rapport au monstre du lac Champlain. Et on parle quand même de plus de 300 témoignages qui ont été dûment répertoriés. Même dans les cultures Abénaki, donc les Autochtones qui vivaient autour du lac Champlain à l'arrivée des hommes blancs, eux-mêmes entretenaient ces récits folkloriques de légendes à propos d'un animal inconnu vivant dans les eaux du lac Champlain.
Comment ils l'appellent?
Les Autochtones?
Ils l'appelaient
Totoskouk.
Totoskouk?
Totoskouk, ça c'était c'était surtout les Abénakis qui en parlaient,
okay.
Et eux avaient cette légende de Totoskouk. Écoute, on raconte même que Samuel de Champlain lui-même aurait vu la mystérieuse créature.
Ah ben là, si Samuel l'a vu.
Si Samuel l'a vu, mais encore là, petit bémol, les historiens en fouillant dans les journaux de Samuel de Champlain n'ont pas trouvé cette référence. Donc on se demande où les chasseurs de monstres ont appris que Samuel de Champlain avait vu la créature, mais bon, ça ne fait pas partie de ces journaux. Mais il est quand même acquis que les communautés autochtones qui vivaient autour du lac Champlain parlaient de cette créature sous le nom de Totoskouk.
Et cinq, Totoskouk. Puis les hommes blancs, eux autres, ils l'ont, ou les femmes blanches, là, parce que tu nous parles d'une passionnée.
Ah oui.
Elle l'appelle comment?
On l'appelle Champ. Hein? Son nom commercial maintenant, c'est Champ. Et c'est vrai que si tu vas du côté de Plattsburgh ou encore du côté de dans le Vermont, on parle de Burlington, tout ça, il y a beaucoup d'industries qui ont récupéré le nom de Champ. Hein? Le restaurant Champ, le déménagement.
Champ pour Champlain, là, c'est
ça? Oui, Champ pour Champlain.
Ça n'a rien à voir. Dans le fond, le monde, ça n'a rien à voir avec l'industrie touristique, mettons, autour du lac, là, c'est...
Non, ben, il y a quand même quelques éléments où on tire profit de la présence du monstre. C'est une valeur ajoutée. Un plus-value.
Bon, Christian Totoskouk, Page.
Ça fait plaisir, Bernard.
Je te souhaite une bonne fête du travail, bonne fin de semaine.